France Inter. Pierre Veille, le 6-9 de l'été.
L'invité du grand entretien, Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École normale supérieure, auteur de nombreux ouvrages sur l'économie et le travail, un des initiateurs des économistes atterrés, et vous publiez chez Odile Jacob « Partager les richesses, des pistes pour refonder la social-démocratie ». Alors, dans ce livre, il y a un thème qui revient très très souvent, que vous développez largement, il faut lutter contre le propriétarisme. C'est le cœur de cet ouvrage.
Oui, alors c'est un des cœurs de d'ouvrage. Ouais. Alors effectivement, ouais. Alors propriétarisme renvoie à certaines notions philosophiques. Ici, c'est vraiment l'idée d'une domination de la propriété dans le capitalisme d'aujourd'hui. Alors cette domination, elle se voit sur différentes dimensions complémentaires. Une consiste à l'extension du domaine de la propriété. Si on prend le cas des données, il y a une vingtaine d'années, les grandes bases de données n'étaient pas nécessairement une propriété privée de ceux qui créaient ces bases. Elles appartenaient potentiellement à tout le monde. Et on a étendu ces droits, et c'est en partie cela qui explique aujourd'hui l'existence de géants. On parle des GAFA, de leur taxation éventuelle ou autre, mais s'il n'y avait pas ces droits de propriété spécifiques, cette extension finalement sur la propriété de tous, sur la connaissance de manière exclusive, on n'aurait pas aujourd'hui ces géants qui tirent des rentes très importantes sur tous. Donc ça, c'est un premier segment. Et puis l'autre segment, c'est une forme de protection démocratique qu'a la propriété aujourd'hui, avec, c'est quelque chose dont on parle relativement peu, si on se place dans les sociétés occidentales il y a 40-50 ans, la plupart des foyers étaient non propriétaires de leur logement. Et on a fait en sorte de faire une société de petits actionnaires, de propriétaires de leur logement, qui finalement ont très très peur qu'on taxe la propriété. Et lorsqu'on somme les deux, eh bien on a une protection, on ne taxe pas la propriété s'étend, et tout cela, mécaniquement, génère une capacité pour des gros acteurs d'avoir des rentes très importantes, des rentes tirées sur les consommateurs, sur l'ensemble du monde du travail.
Donc, il faut lutter contre les rentes.
Oui, tout à fait. Voilà, il faut lutter contre les rentes. Ou bien, si on accepte les rentes, il faut que chacun ait les mêmes armes pour récupérer des morceaux de cette rente. Et c'est pour ça, c'est l'autre pan de mon ouvrage, c'est d'insister sur le fait qu'il faut réarmer les travailleurs pour être en capacité de, eux aussi, face à ces géants, de récupérer ce qui est finalement une forme de leur dû. Et c'est ce que je dénonce, c'est-à-dire qu'il y a tout un discours disant il y a des improductifs. Finalement, c'est aussi une partie des gilets jaunes. Ce qu'on leur renvoie systématiquement à la face. Vous êtes dans des zones isolées, peu productifs, vous faites peu d'efforts, il suffirait de traverser la rue ou autre. Non, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on regarde les chiffres, la population en France comme dans les autres pays travaille de plus en plus dur. Et ce plus en plus dur correspond en fait à rendre nos économies plus prospères. Et donc il faudrait et légitimement qu'ils reçoivent une part de cette prospérité.
Philippe Askenazy, économiste avec vous, on va passer en revue les grands dossiers économiques actuels que connaît le gouvernement français. La Banque centrale américaine devrait décider aujourd'hui une baisse modeste, mais historique de ses taux d'intérêt. C'est la première fois depuis 11 ans. La BCE, la Banque centrale européenne, pourrait elle aussi suivre ce mouvement en septembre. Quelles conséquences pour nous en France ?
Alors aujourd'hui, les conséquences vont être relativement limitées. C'est plutôt le signal d'une situation qui s'aggrave au niveau mondial. Pour la croissance mondiale va être une des plus faibles des 10 dernières années. Donc on est face à des économies qui patinent.
Et pourquoi elles patinent ?
Alors pourquoi elles patinent ? Alors une grande partie est liée au fait qu'il n'y a pas aujourd'hui de capacité de véritablement faire une politique monétaire, parce que l'inflation est extrêmement basse. Alors, lorsqu'on essaye de comprendre pourquoi cette inflation est très basse, eh bien, on en revient à la question de la dynamique salariale. Il n'y a aujourd'hui pas de dynamique salariale, même dans des pays qui sont au plein emploi, comme l'Allemagne ou comme les États-Unis, les salaires augmentent très très peu. Et ça renvoie à ce que je vous disais précédemment. On a le monde du travail qui est extrêmement affaibli face au monde du capital. Aujourd'hui, c'est capturé par de grands acteurs. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de dynamique salariale, pas d'inflation, rend difficile de mener une politique monétaire. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui fait que globalement, il y a une sous-consommation, ou plutôt une mal-consommation. Vous voyez, une partie de la population est obligée de consommer des produits de mauvaise qualité, et tout cela entraîne une forme de stagnation globale auquel on met on le jette des bouées. C'est ce que font les banques centrales.
Philippe Askenazy, gros dossier encore, la réforme de l'assurance chômage en France. Clairement, le gouvernement a durci les règles pour bénéficier d'une indemnisation. Objectif, c'est diminuer le déficit de l'assurance chômage et faire reculer ce chômage. Est-ce que c'est une réforme nécessaire ou injuste selon vous?
Alors, d'une certaine manière, je dirais les deux. Dans le sens que ce que l'on voit, donc c'est pas nécessairement une spécificité française, mais qui est très marqué en France, c'est une montée de la précarité, ce que je qualifie même d'hyper précariat, une situation où de nombreux salariés se retrouvent dans un enchaînement très rapide de contrats extrêmement brefs. Aujourd'hui, les contrats de travail en France, leur durée médiane, c'est à peine 5 jours, c'est très très court. Donc vous travaillez une semaine, vous retrouvez au chômage, vous retravaillez une semaine, et tout cela a été en partie entretenu par le système d'assurance chômage, qui d'un côté ne sanctionnait pas les entreprises qui recouraient à ce type de contrat ou très très peu, et d'un autre côté, qui finalement, là aussi, essayait de soutenir les revenus de ces personnes qui vivaient dans cette très grande précarité, même si elles n'y arrivaient pas. Hein, lorsqu'on regarde les chiffres sur une douzaine d'années, leurs revenus globaux diminuaient. Donc là, objectifs de la réforme pourrait être de dire on fait machine arrière vis-à-vis de ça, on ne subventionne plus la précarité. Mais ils le font de manière extrêmement dure, et cette dureté va se traduire certainement par une chute dans la pauvreté d'une part des travailleurs français aujourd'hui. Et puis, on ne prend pas à bras le corps la question de la précarité. On aurait pu faire d'autres types de politiques certainement plus efficaces.
Philippe Askenazy, la réforme des retraites, là encore, dossier très important, un système universel pour remplacer les 42 systèmes existants. Quels sont, selon vous, les salariés qui vont y perdre ?
Alors, pour l'instant, on ne connaît pas les paramètres exacts de cette réforme. Je dirais que déjà on sait qu'une part des fonctionnaires vont perdre mécaniquement, notamment les enseignants parce que ils n'ont pas de primes, qui vont désormais être incluses dans les bases des retraites. Mais j'insisterai sur le fait que finalement, c'est plutôt globalement l'ensemble des travailleurs qui ont des difficultés de santé qui vont être touchées par la mise en œuvre d'un âge pivot de 64 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, l'espérance de vie en bonne santé, on parle toujours de l'espérance de vie, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans situation de handicap, c'est 65 ans. Donc ça veut dire que votre espérance, lorsqu'on met un âge pivot à 64 ans, votre espérance de retraite en bonne santé, c'est 1 an. Pas plus. Donc on va en quelque sorte jusqu'au bout de la capacité de travail des Français. Donc ceux qui ont des accidents de vie, ceux qui ont des conditions de travail très dures, eh bien cette réforme-là fait que ils ne connaîtront pas une retraite dans une situation où ils auront une réelle plénitude de leur validité. Donc je crois que là il y a sur cela une bien plus que la question de on va mettre des points ou autres, cet âge pivot, quelque chose qui ne correspond pas à la santé publique française d'aujourd'hui.
Alors est-ce qu'on peut dire que le point essentiel de cette réforme, c'est que le gouvernement veut qu'on travaille plus longtemps ?
Oui, certainement. Et puis aussi, ce qu'il veut, c'est avoir retiré aux partenaires sociaux le pilotage de système de retraite. Et puis, il va pouvoir faire un pilotage automatique, au sens que la valeur du point, c'est l'autre élément important, eh bien, va pouvoir être décidé d'une année sur l'autre par Bercy. Et donc, on a une forme d'étatisation de ce système qui, en soi, ne va pas être tenable à long terme. Et nécessairement, les entreprises vont devoir elles-mêmes offrir des systèmes complémentaires de retraite. Et donc, on va se retrouver avec une multitude de systèmes de retraite et pas du tout ce mirage d'un système unique.
Le chômage baisse en France, moins 14 600 demandeurs d'emploi au deuxième trimestre 2019. On a un taux de chômage maintenant de 8,7%. C'est le plus bas depuis 10 ans. Quel taux de chômage Emmanuel Macron peut-il espérer à la fin de son quinquennat, Philippe Askenazy?
Bon, alors, il y a évidemment les paramètres macroéconomiques qui vont jouer, mais ouais. on va certainement continuer à observer ce déclin et qui correspond à une situation où on a une stagnation globale de la productivité du travail et qui rejoint au fait que finalement, on a fait tout pour que le travail coûte moins cher. Et donc finalement, les entreprises, eh bien effectivement, elles embauchent souvent en contrat court. Tout cela a tendance à diminuer le chômage, mais de manière extrêmement lente. Et l'absence de gains de productivité, qui est en soi un gros souci lorsqu'on revient à la question des retraites, puisque l'équilibre à long terme de nos retraites dépend de la capacité d'avoir une productivité plus importante. Et surtout que cette productivité se traduise par des salaires plus importants, parce que c'est toujours la même chose. Lorsque la base salariale augmente, eh bien on est en capacité d'avoir plus d'impôts, ouais. de financer l'État, mais aussi de financer les retraites futures. Donc, on va continuer certainement à avoir un déclin, mais en soi, ça ne va pas résoudre les difficultés des Français face à l'emploi. Aujourd'hui, il y a le chômage, certes, mais il y a aussi cette question prégnante de la précarité pour à peu près un cinquième des Français.
Il y a un dossier qui est là et qu'on attend avec une certaine anxiété, c'est le Brexit. Si la Grande-Bretagne de Boris Johnson sort de l'Europe sans accord, le fameux no deal, est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation dans toute l'Europe et des conséquences économiques qui pourraient déstabiliser l'économie française?
Alors, c'est très difficile d'anticiper, parce que même s'il y a no deal, il y aura certainement des formes d'accords intermédiaires. Certains segments de l'économie française pourront être touchés, mais ça sera finalement, je pense, relativement limité. C'est la Grande-Bretagne qui est clairement en première ligne. Là où il risque d'y avoir des conséquences, c'est si le pari de Boris Johnson fonctionne. C'est-à-dire que actuellement, les services de l'équivalent du ministère de l'Industrie britannique travaillent beaucoup pour une forme de plan B et qui ferait une réussite de l'économie britannique dans une situation de no deal. Et si effectivement, ils y arrivent, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne, le sortir de l'Europe est un succès, à ce moment-là, on va renforcer toutes les mécaniques de décomposition de l'Union européenne, puisque si la Grande-Bretagne sortie de l'Union européenne se porte bien, eh bien, ben, l'Italie va pouvoir vouloir sortir, etc., etc.
Beaucoup de questions pour vous, Philippe Askenazy, oui, au standard, le 01 45 24 7000. Le premier appel, il est en ligne avec nous, c'est Thomas, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'écouter France Inter, et Philippe Askenazy est prêt à répondre à votre question.
Oui, bonjour. Je me pose souvent la question suivante dans mon coin, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent du personnel, pas forcément à court terme, mais parfois même des CDI en restauration, en commerce, en hôtellerie, en transport, et ils ne trouvent pas. Et souvent, ce qui est évoqué, qui est un sujet politique compliqué, mais moi je le regarde d'un économiste, c'est l'écart entre le SMIC et les revenus sociaux. Donc, comment résoudre ce problème? Parce que là, dernièrement, j'ai 6 personnes autour de moi qui cherchent à embaucher, qui n'y arrivent pas.
Philippe Askenazy.
Il y a des jeunes qui cherchent.
Oui. Philippe Askenazy.
Oui, alors, la question SMIC versus revenus sociaux avait été souvent mise en avant. Et d'ailleurs, les réformes qui avaient été faites du RMI puis du RSA avaient cherché à corriger la faiblesse du différentiel. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, ça ne changeait pas véritablement la donne. Alors, il ne faut pas surexagérer le nombre de postes vacants, parce que tout simplement, les Français, eh bien, qui sont au chômage, veulent travailler. C'est pas j'ai mes allocations, je reste chez moi. Ce n'est qu'une infime minorité qui est concernée. Donc, il faut aller regarder d'autres types d'obstacles. Et dans les obstacles puissants, eh bien, vous avez celui de la distance qu'il peut y avoir entre votre logement et les lieux de travail, qui sont parfois extrêmement importants, votre incapacité d'avoir une mobilité résidentielle. S'il y a dans le centre de grande ville des postes qui sont disponibles, par exemple de serveurs la nuit jusqu'à 2h du matin. Vous n'avez aucun moyen de transport pour revenir dans votre banlieue lointaine. Il faudrait que vous viviez au centre de la ville. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui compte ? C'est pas non pas les allocations que vous pouvez toucher par ailleurs. C'est véritablement ce que le prix du logement que vous devez verser. Donc certainement un des grands freins aujourd'hui, mobilité résidentielle et existence de transport pour la population, ce qui renvoie d'ailleurs en partie à la crise des gilets jaunes où lorsqu'on a voulu taxer plus l'essence, eh bien c'était pour justement les personnes qui sont en mobilité un coût qui augmentait de manière massive.
Marie est à Lyon, elle écoute France Inter, elle est avec nous en direct sur l'antenne. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Eh bien ça relie un peu ce que M. Askenazy a dit tout à l'instant sur le logement. Hier j'ai vu un reportage à la télévision sur le fait qu'on propose à des gens, et notamment à des jeunes qui n'ont pas d'apport, pas assez d'argent pour acheter un logement, d'acheter des logements et de les louer, et donc avoir un apport de loyer et pouvoir vivre de sa rente. Voilà, pouvoir proposer un système qui va faire se développer des rentiers. Et je trouve ça scandaleux parce que, alors qu'on manque de logements sociaux, on va construire des logements, on va les vendre à des jeunes sans leur demander d'apport. Et donc ils peuvent facilement, enfin des jeunes ou d'autres personnes, hein, sans avoir d'apport à mettre. Et donc ils se nourriront du fruit des loyers. Voilà. Oui. Je trouve ça scandaleux. Donc j'aimerais bien que M. Askenazy, c'est un reportage que j'ai vu à la télévision hier soir.
Si je résume votre question, Marie, c'est comment supprimer cette économie de la rente, Philippe Askenazy?
Oui, alors en plus sur ces questions de logement, il faut voir que de manière assez régulière, on va construire notamment à travers des outils fiscaux incitatifs des logements dans les lieux où on n'en a pas besoin, où il n'y a pas nécessairement les bonnes activités. Donc ça renvoie à certainement repenser la politique du logement qui s'est beaucoup concentrée sur le parc privé pour revenir tout simplement sur le parc public. Lorsque je parlais tout à l'heure de propriétarisme, il y a beaucoup de Français qui gagneraient finalement à ne pas être nécessairement propriétaires de leur logement, mais qu'il y ait une politique d'État pour étendre la part du logement social en France. C'est vrai en France comme dans la plupart de nos voisins.
Gabriel à Antibes est avec nous. Bonjour Gabriel.
Bonjour à tous. Là j'écoute, comment résister à cette grande braderie qui est en train de se faire? Et puis le fait de devenir propriétaire, c'est un bon moyen d'éviter des gilets jaunes dans la rue, hein, d'éviter toute contestation puisque les gens se retrouvent coincés avec des crédits.
Mais pourquoi vous parlez de braderie?
Ben, je parle de braderie quand on vend les aéroports, qu'on privatise la SNCF, enfin les chemins de fer, qu'on privatise les barrages, et puis bon, je pourrais dire, etc., etc., que le logement social se retrouve quasiment à devenir compétitif, que l'ONF, on lui demande d'être compétitif. Voilà, c'est une grande braderie pour moi.
Philippe Askenazy,
oui,
braderie
alors,
étatique
je sais pas,
actuellement.
À nouveau, alors braderie. En tout cas, disons que l'État, lorsqu'il vend une partie, l'État au sens large de ses biens, n'est pas nécessairement un très bon vendeur. Mais ça renvoie l'idée de propriétarisme que je développais au départ, c'est que effectivement, la sphère d'une propriété exclusive par certains acteurs ne cesse de s'étendre. Et lorsqu'on pense à la question des privatisations, une autre conséquence, c'est que finalement l'État lui-même voit sa sphère d'influence se réduire. Et lorsqu'on a un État qui, surtout dans un pays comme la France, où on avait historiquement un État fort, et que son influence économique ne cesse de se réduire, eh bien, il est obligé, l'appareil étatique, de se reporter sur les fonctions qui lui restent, et ces fonctions qui lui restent, ce sont les fonctions régaliennes, et en soi, c'est aussi un des éléments pour lesquels je défends qu'il faut recréer une social-démocratie face au libéralisme, face au populisme de droite, c'est que avec un État réduit à peau de chagrin à ses éléments régaliens, eh bien, on a systématiquement en germe le risque d'une dérive autoritaire. Et ça, c'est un risque qui est très important. Et je crois que c'est plutôt la démocratie qu'on risque de brader aujourd'hui plutôt que strictement les biens publics.
Dernier appel au standard, Jules, à Paris. Bonjour Jules. Soyez pas trop long, il nous reste une minute.
Oui, faute. Bonjour. Alors, il semble exister une corrélation assez claire entre le PIB mondial et la consommation mondiale d'énergie. Du coup, j'ai deux questions. La première, est-ce que l'économiste que vous êtes pense que cette corrélation est une réalité? Si oui, une économie de la décroissance n'est-elle pas nécessaire pour sauver la planète?
Philippe Pascalazzi.
Alors, la corrélation, oui, tout à fait. Hein, c'est ce que l'on voit historiquement depuis un siècle. Je ne suis pas nécessairement convaincu qu'il faille aller dans une dynamique de décroissance, mais au contraire, casser cette corrélation. C'est pas dans cette direction que l'on va lorsqu'on voit les multiplicités des accords de libre-échange qui vont encore augmenter les transports internationaux, mais il y a très clairement les outils pour penser une autre économie qui soit pas nécessairement moins productive mais qui soit plus compatible avec les questions d'urgence climatique.
Philippe Askenazy, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Je rappelle le titre de ce livre chez Odile Jacob, Partager les richesses. Merci.